Oui, moi, ce qui a été dit me faisait penser à une autre histoire dont vous avez certainement entendu parler, qui est une histoire de l'Antiquité, les Horace contre les Curias. Je ne sais pas si ça vous parle. Ils se retrouvent à 3 contre 3, mais c'est du même ordre, hein, à 3 contre 3 dans une arène, donc Horace d'un côté, Curias de l'autre, dans le cadre des Jeux du Cirque. Et enfin, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais il y a un trio qui est beaucoup plus apte au combat que l'autre. Et du coup, il y en a deux du même camp qui se font zigouiller quasiment tout de suite, ce qui fait que celui qui reste, il reste à 1 contre 3. Et effectivement, ça veut dire que ses chances sont plus que minces. Et il a l'idée de se mettre à courir autour de l'arène. Et les autres évidemment lui courent après pour le zigouiller, sauf que les autres ne courent pas tous à la même vitesse. Et au lieu de s'attendre, eh ben, chacun court à sa vitesse, ce qui fait qu'au moment où il se retourne, il y en a d'abord un qui arrive, les deux autres sont loin, donc il le zigouille, puis deux, et il le zigouille, puis trois. Et c'est en les divisant sur leur aptitude à courir qu'il arrive à s'en sortir. C'est aussi une leçon sur le fait de rester unis et même si on a l'impression de ne pas courir à la même vitesse, et ça peut être aussi une leçon pour les chrétiens, si on a l'impression qu'on court plus vite que les autres, c'est pas forcément une mauvaise idée de les attendre. Bon, voilà, donc ça c'était pour ce que m'inspiraient les paroles de l'introduction. Il y a du fil là, tiens. Voilà, sinon si j'ai un peu de mou, ça va mieux. Donc, après les histoires d'animaux pour enfants, je vous propose une histoire d'animaux pour adultes. Pardon, je baisse ça, voilà. Je disais donc, je vous propose une histoire d'animaux pour adultes, et là, sur le plan numérique, je n'ai rien à craindre, puisque je vais vous parler de 2000 animaux. Donc, vous savez peut-être déjà de quoi il va être question. Je vais lire deux fois le même récit, rédigé par deux auteurs différents, c'est-à-dire que deux auteurs ont rédigé le récit des mêmes événements. Ça se ressemble, c'est presque du copier-coller, mais presque. Et l'intérêt de lire les deux, c'est qu'il y a des détails dans l'un qui ne se trouvent pas dans l'autre, et inversement. Et donc je vous demande d'être attentif aux détails, parce que c'est des détails que je vais parler ce matin. Alors, ça commence dans Marc. Pardon ?
Pour qu'on puisse bien faire attention, il ne faut pas lire trop vite.
Non, mais je ne vais pas lire trop vite. Bon, après, je ne vous cache pas que ce sont des récits que tout le monde connaît.
Et qui ont des cerveaux plus lents que d'autres.
Voilà. Et donc, on va s'attendre. C'est comme les Horaces et les Curias. Voilà. Donc, on va tous se caler sur le cerveau le plus lent. Alors, que celui-là lève la main. non, j'aurais dû dire que celle-là, les blâmes. Vous réagissez pas ? Ah, Sandra a voulu me mordre, mais elle a un masque. Bon, allez, sérieusement. Marc chapitre 5, début du chapitre. Je prends un peu plus haut d'ailleurs, parce que c'est pas plus mal de prendre l'épisode qui est juste avant. Ce jour-là, le soir venu, donc faites attention aux détails, on est le soir. Hein? Et donc le soir, on prend pas la mer, on ne navigue pas la nuit, parce que la nuit on voit rien et c'est dangereux. Bon, mais ça fait rien. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Alors ça veut dire quoi « Passons sur l'autre rive » ? Ça veut dire qu'on est à Capharnaüm, qui est une ville de Galilée, donc en Israël, et qu'on va aller sur les rives qui bordent un village de Jordanie, enfin de la Jordanie actuelle, qui s'appelle Gadara. Alors, ça fait une traversée. Alors, il s'agit de traverser alors, ce qu'on appelle le lac de Tibériade ou le lac de Génézareth, enfin, ça a plusieurs noms. C'est pas le lac Léman, hein, c'est beaucoup plus petit, mais c'est quand même une traversée, surtout si on la fait la nuit. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent, les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait, et lui, à l'arrière, sur un coussin, dormait. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ça ne te fait rien qu'on périsse ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Et j'attaque mon sujet. La suite, ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens, alors donc pays des habitants de Gadara, qui sont appelés Géraséniens ou autrement, mais voilà, en l'occurrence, c'est les habitants de Gadara. Mais c'est le pays des habitants de Gadara. Comme ils descendaient de la barque, donc ils ne sont pas dans le village, hein, ils sont sur la plage. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre en sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il lui dit « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur !» Il interrogeait « Quel est ton nom ?» Et il lui répondit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Ils sortirent, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent pour voir ce qui s'était passé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait en demandant à venir avec lui. Et Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors la décapole, oui, parce que Gadara, c'est dans une région qui s'appelle la décapole, Décapolis, 10 villes. C'est une région de 10 villes qui sont en administration directe, enfin, en l'occurrence en administration romaine. Et donc, alors pour vous citer, donc on est en Jordanie. Parmi les 10 villes en question, il y en a une qui est encore aujourd'hui la capitale de la Jordanie, c'est-à-dire Amman. Et donc, c'est cette région-là. Alors, quand on dit 10 villes, il faut pas imaginer Nice. Hein, il faut imaginer plutôt Courcegoul ou Sperasen. Mais il y a comme ça 10 patelins qui sont autonomes. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en Israël. Donc, proclamé dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Je lis la même chose dans Luc, au chapitre 8, mais je vous dis, il y a quelques détails qui sont intéressants et que vous aurez donc en plus. Alors, je ne reprends pas l'histoire de la tempête et du lac et de la traversée, parce que là, c'est pratiquement du mot pour mot, donc je ne vais pas vous le relire une deuxième fois. Alors, ils abordèrent au pays des Gergéséniens, alors c'est toujours les habitants de Gadara, mais écrit avec une orthographe différente, qui est en face de la Galilée. Comme il descendait à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville qui avait des démons. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. À la vue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car bien des fois il s'était emparé de lui. On le liait pour le garder avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et il était poussé par les démons dans les lieux déserts. Jésus l'interrogea « Quel est ton nom ?» Il répondit « Légion, car de nombreux démons étaient entrés en lui, et ils le supplièrent de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs, et il le leur permit. Les démons sortirent de l'homme, ils entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et s'y noya. À la vue de ce qui était arrivé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis, qui était vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur rapportèrent comment celui qui était démoniaque avait été sauvé. Alors toute la population de la région des Gergéséniens, toujours les mêmes, demanda à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient en proie à une grande crainte, et il monta dans la barque et s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le sollicita. Il demanda à être avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et l'homme s'en alla, proclamant par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà. Quand on lit ça pour la première fois, on se demande pourquoi Hollywood n'a pas encore acheté les droits pour en faire un film. Parce que alors franchement, là pour le coup, c'est spectaculaire. D'abord, les films d'exorcisme, ça marche très bien. Et puis une tempête apaisée. Enfin, là, il a tout du super-héros. Est-ce que c'est simplement ça que ces récits veulent nous dire? Et est-ce que la conclusion qu'on doit en tirer, c'est « Ah bah oui, effectivement, il est balèze, Jésus. » Bon. Bon, il est balèze, Jésus, mais d'abord, on le sait déjà, parce que j'ai pas voulu remonter trop en amont dans le récit, mais il était donc chez lui, dans sa ville à Capharnaüm, et ce qu'on nous dit de son séjour à Capharnaüm, c'est que comme il a commencé à guérir des malades et à chasser des démons, on lui a amené tous les malades et tous les démons, et enfin tous ceux qu'on a pu ramasser, et il a guéri tous les malades et il a chassé tous les démons. Donc là, on sait déjà sa capacité, j'allais dire, surnaturelle. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin, puis d'ailleurs, est-ce qu'il avait vraiment besoin de monter dans une barque, de traverser un lac en pleine nuit, d'aller voir un démoniaque, alors qu'à Capharnaüm, il en a délivré, on ne sait pas combien, mais un paquet, d'aller voir un démoniaque, de le lendemain même, enfin, il n'a pas passé 24 heures à Gadara, le lendemain même reprendre sa barque et repartir dans l'autre sens, parce que les gens lui ont demandé poliment de débarrasser le plancher. Bon, ça, déjà, ça laisse perplexe. Ce qui laisse perplexe aussi, c'est que Paul, l'apôtre, a beau nous dire que de tous les récits bibliques, il y a des leçons à tirer, là, moi, demain matin, je ne suis pas sûr de rencontrer 2000 cochons et un type à poil hystérique à qui je vais dire « tu es délivré ». D'abord, 2000 démons, je ne suis pas sûr d'oser m'y attaquer. Et puis, bon, franchement, statistiquement, il y a assez peu de chances pour que ça m'arrive. Alors, là encore, à part dire de Jésus qu'est-ce qu'il est balèze, quelle leçon j'en tire pour moi? Moi, je vais vous faire un aveu, et vous, ceux qui me connaissent le savent depuis longtemps, je ne suis pas exorciste. Je n'ai pas cette capacité-là. Donc, je ne me risquerai pas à faire des choses pour lesquelles Dieu ne m'a pas équipé. Bon. Donc, et puis, s'il y a un exorciste dans la salle, il a le droit de se faire connaître, mais je ne suis pas le seul dans mon cas. À dire que ça n'est pas à ma portée. Alors, bon, je la fais courte, mais quelle leçon pour moi? Ce que j'ai l'ambition de vous démontrer ce matin, c'est que beaucoup de choses à tirer parce que cet homme, il est emblématique, c'est l'archétype de l'homme révolté. L'archétype de l'homme révolté, c'est-à-dire l'archétype de l'homme en rupture avec Dieu. Comme tous les hommes que Dieu n'a pas réconcilié avec lui par son Fils. Et comme nous, avant cette réconciliation, on était. Et là, vous me dites, il ne faut pas pousser. Moi, quand je n'étais pas chrétien, je n'étais pas à poil dans les cimetières en train de hurler. Bon. Peut-être, peut-être. Mais là, évidemment, puisque c'est pour le besoin de la démonstration, on nous met tous les ingrédients sous les yeux. Il faut que ça se voit. Mais je maintiens que cet homme, c'est l'archétype de tous nos contemporains. Alors, si vous avez écouté le récit avec attention, et si vous connaissez un peu ce que la Bible raconte, vous êtes aperçu que cet homme, il est immergé, mais immergé dans l'impureté. Il est immergé dans l'impureté de l'extérieur et de l'intérieur. De l'intérieur, évidemment, parce qu'il a des démons, que justement, le grec appelle aussi « esprit impur ». Donc, il est impur à l'intérieur, parce que les esprits qui l'habitent sont des esprits impurs. Mais il est impur aussi dans son environnement, parce que il est dans le désert, il est dans les tombes, il est avec des porcs, et il y en a un quatrième que j'ai oublié, mais dont je vais me souvenir. Il est dans les tombes, et ça, c'est impur. Ça, c'est impur parce que la loi, alors vous connaissez peut-être la loi qui avait été donnée au peuple par Dieu, en disant, il y a des animaux purs et des animaux impurs. Les animaux purs, c'est ceux qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Tous les autres, c'est des animaux impurs. Donc, et le porc est cité en disant, le porc, il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas, donc il est impur. Et inversement, ceux qui ruminent, mais qui n'ont pas de sabots fendus, ils sont impurs aussi. Donc, il y a deux critères pour rendre les animaux purs. Bref, les porcs, c'est des animaux impurs. D'ailleurs, c'est venu jusqu'à nous. Il y a encore aujourd'hui, sur cette planète, des gens qui considèrent que manger du porc, c'est impur. Bon, donc je n'ai pas besoin de m'étendre. Il y a le fait qu'ils vivent au milieu des tombes. Là encore, une tombe, si vous prenez la loi donnée à Moïse, si par accident, un homme met un pied sur une tombe, il est, dit la loi, impur jusqu'au soir. Donc je disais, les esprits qui sont en lui, les tombes, les porcs et le désert. Le quatrième élément, c'est le désert. Alors, le désert, vous allez me dire, c'est pas impur en soi. Si, ici. Le désert, dans la représentation, parce que je vais vous le démontrer, les gens qui assistent à ça, ou les gens à qui on le raconte, c'est pour ça que moi j'entre dans les détails, eux, ils comprennent tout de suite. Ils comprennent tout de suite parce qu'ils ont la culture qu'il faut. Donc, ils ont tout de suite, j'allais dire d'instinct, le réflexe de se dire « cet homme est immergé dans l'impureté » et le désert, c'est un lieu impur. Jésus, il va être tenté par le diable, non pas en ville, dans le désert. Quand il va affronter le diable, il va dans le désert, parce que le désert est réputé comme étant le lieu du diable. Autre exemple, tout le monde au moins connaît cette expression qu'on a repris en français, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, ça vient d'une histoire biblique. En fait, on dit le bouc émissaire, c'est une erreur, parce qu'il y a deux boucs dans le cérémonial. Il y a un bouc qu'on sacrifie en ville pour les péchés du peuple, et le texte dit, on prend deux boucs. Et le deuxième bouc, on l'envoie dans le désert pour le démon. Parce que, encore une fois, d'abord, parce que, tout simplement, à cette époque-là et dans ce contexte-là, pour survivre, il faut être en ville. Dans le désert, on crève. Il n'y a rien à manger, rien à boire, surtout. Donc, Le désert, c'est un lieu de mort. Tout ça pour vous dire que cet homme, par le désert, par les tombes, par les ports et par les esprits qui l'habitent, il est immergé dans l'impureté. Et il ne peut pas en sortir. Et de la même manière qu'il y a quatre ingrédients, il y a aussi quatre conséquences. Et c'est là que je veux insister sur le fait que, si on est honnête, on verra que même si nos contemporains, ceux qui sont autour de nous, comme je le disais, ne se baladent pas à poil dans les cimetières en criant, on est quand même dans ce contexte-là. Et si on est encore plus honnête, on admettra que c'était aussi notre condition à nous, avant que Dieu vienne à notre rencontre. Alors, les quatre conséquences, c'est quoi? La première, c'est qu'il est nu. Alors, vous me direz, bon, on est en Jordanie, hein, il ne va pas attraper le rhume. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. La nudité, dans la Bible, c'est lié à la conscience de la culpabilité. Alors, on dirait, il ne suffit pas que je le dise pour que ça devienne vrai, donc il faut que je démontre. Et je vais pas m'étendre, mais je vais prendre l'exemple le plus emblématique. Mais vous devinez où je vais aller le chercher. Le récit de la Genèse, c'est-à-dire le récit des origines. Alors, vous vous souvenez, bon, ça tout le monde connaît, hein, Bible ou pas Bible, tout le monde sait, le fruit défendu, et puis il mange quand même le fruit. Bon. Alors, je prends le récit là où tout le monde est au courant, c'est-à-dire, ils ont mangé le fruit qu'on leur avait dit de ne pas manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder et précieux pour agir avec clairvoyance. Oui, c'est traduit clairvoyance. Là. Elle en prit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et qui en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la tombée du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur, au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu. » Et je me suis caché. Il n'y a pas quelque chose qui ne colle pas dans ce récit? Vous vous êtes jamais dit « ça ne colle pas » Ben, qu'est-ce qui ne colle pas? Ben, ce qui ne colle pas, c'est que ils s'aperçoivent qu'ils sont nus, ils se font des pagnes, Dieu se balade dans le jardin, il se planque. Quand Dieu dit « Où es-tu ? Et pourquoi tu t'es caché ?» Ben, parce que je suis nu. Ben non, tu n'es pas nu, tu t'es fait des pagnes. Donc tu n'es pas à poil. Donc, il faut, encore une fois, je le dirai jamais assez, la Genèse, c'est pas une histoire du père Castor, quoi. C'est pas un récit pour les enfants. C'est fait pour nous faire réfléchir. Si on se pose pas ce genre de questions en lisant la Genèse, effectivement, c'est les bisounours. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience de la culpabilité qui est liée à la faute, elle génère tout de suite le réflexe de couverture de la nudité, donc de la culpabilité, mais l'homme et la femme, alors que c'est le mari et la femme, donc à la limite, s'ils se voient mutuellement à poil, c'est pas gravissime. Bon, mais c'est pas ça la question, évidemment. Évidemment, là, la question qui est posée, c'est la culpabilité. Et le fait de se mettre des pagnes, ça veut dire qu'on est capable, et ça, c'est universel, on est capable de se dissimuler notre culpabilité à l'égard de Dieu, les uns vis-à-vis des autres. On est capable de marcher dans la rue en faisant comme si on n'était pas coupable devant Dieu. Comme Adam a été capable de cacher sa nudité, donc sa culpabilité, à l'égard d'Ève et réciproquement. Mais quand il s'agit de se mettre face au regard de Dieu, là, le pagne, ça cache rien du tout. Là, on est nu. On est nu parce que la culpabilité devant Dieu, elle ne se cache pas. Bref, ce type est à poil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a même plus la conscience de sa culpabilité. Sinon, il la couvrirait. Symboliquement, c'est quelqu'un, et là nos contemporains pourront se reconnaître, et je peux me reconnaître dans ce que j'étais avant ma rencontre avec Dieu, je n'ai même pas conscience de ma culpabilité. Je suis nu devant Dieu, dans ce sens-là du terme, mais je ne le sais même pas. Et ça ne me préoccupe même pas. Donc, la première des conséquences, c'est celle-là. La deuxième des conséquences, et encore une fois, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais à chaque conséquence, tout le monde pourra se reconnaître, enfin, vous pourrez reconnaître nos contemporains, et vous pourrez vous reconnaître, vous. Nous pourrons nous reconnaître, nous, dans le « avant ». Il n'est pas seulement nu, il est seul. Il est incapable d'être en relation avec les autres. Alors que l'homme, alors je ne vais pas reprendre tous les textes de la Genèse, a été créé comme être en relation. Et on le sait au fond de nous, on le sait au fond de nous que si demain tous les autres disparaissaient, on aurait l'air malin sur une planète où on pourrait avoir tous les trésors de la Terre, on pourrait conduire les plus belles voitures. On voit ça dans les films de science-fiction où tout le monde meurt sauf un. Ben, il a l'air malin, le un qui reste. Bien sûr qu'on est des êtres en relation. Mais c'est compliqué. Même dans les églises, c'est compliqué. Mais on est des êtres en relation avec cette difficulté liée à la culpabilité et liée à l'impureté. Dieu a fait les hommes pour qu'ils soient en relation les uns avec les autres et en relation avec lui dans la pureté. Dans la pureté des intentions, dans la pureté des sentiments. Mais on est bien obligé de se méfier les uns des autres parce qu'on n'est pas pur. Et le bout de cette situation, c'est l'isolement. Et cet homme-là, il est tellement impur qu'il n'y a plus de relation possible avec quiconque. Ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est que, vous l'avez écouté, enfin, vous l'avez entendu quand je lisais le récit, il a été plusieurs fois entravé, ils ont essayé de le calmer, et à chaque fois, il a arraché ses liens. C'est un être qui est, alors, paradoxalement, en permanence en train d'essayer de se libérer, de gagner de la liberté, parce que quand on lui met des chaînes, il les casse, quand on lui met des liens, il les brise. Il est en permanence en train d'essayer de gagner sa liberté. En fait, il ne gagne rien du tout, puisque son aliénation, elle est intérieure. Mais le combat incessant qu'il mène pour gagner de la liberté, c'est au contraire le signe même de son aliénation. C'est parce qu'il est aliéné qu'il casse tout. Et là encore, je veux dire, je ne vais pas dire les mêmes choses à chaque fois, mais nos contemporains et même nous, on peut se reconnaître au sens où la lutte, struggle for life, disent les anglo-saxons, la lutte pour la liberté, pour la vie, en fait, elle est le signe même chez l'être humain de son aliénation et de son emprisonnement. Et puis, dernière conséquence, il est blessé. Il est blessé. L'homme coupable, c'est un homme blessé. Et c'est un homme blessé, peut-être dans la pire acception du terme, blessé par lui-même, par les blessures qu'il s'est infligées. Il est presque dans l'automutilation. Il se fait du mal à lui-même parce que ce combat dont je parlais pour cette liberté illusoire, puisqu'encore une fois, sa prison, elle est intérieure, cette liberté qu'il veut conquérir, eh ben, elle le blesse, elle lui fait mal. Elle lui fait mal à cause des échecs, et elle lui fait mal parce qu'il est en guerre contre lui-même. Comme, enfin, je ne suis pas psychiatre, hein, mais je sais, pour avoir vu ça dans plusieurs cas, à quel point il est terrible de s'en prendre à soi-même et de s'en prendre soi-même à son intégrité physique quand on est en rupture avec soi-même. Et c'est aussi un homme qui est en rupture avec lui-même. Alors, vous voyez que c'est pas le fou du village à qui Jésus rend visite pour lui dire bah, « ça va aller mieux », c'est, encore une fois, l'archétype de de l'être humain. Un de mes livres préférés s'appelle aussi « L'homme révolté » d'Albert Camus. Mais là, on est dans dans la description, à condition d'aller un peu au-delà des apparences, au-delà de la surface des choses, on est dans la description précise de ce qu'est l'homme en révolte contre Dieu. Et donc, c'est à cet homme-là dont il sait pertinemment que jamais il ne pourra le rencontrer si lui-même, Jésus, ne va pas à sa rencontre. Vous imaginez ce type, lui, il ne va pas pour le coup traverser le lac à la nage. Il ne va pas aller à Capharnaüm. Il n'a déjà pas les moyens d'aller en ville, il n'a pas les moyens d'aller à Gadara, qui doit être à, je sais pas, deux bornes. J'en sais rien, mais en tout cas, pas loin. Il n'arrive plus à vivre en ville. Il ne va pas aller à Capharnaüm, qui pour le coup est une grande ville, pour essayer de trouver Jésus, pour se jeter à ses pieds comme l'ont fait tous les autres, en disant « Sauve-moi !» Ça, Jésus le sait bien. Et Jésus sait bien que s'il ne fait pas tout le trajet jusqu'à lui, la rencontre n'aura jamais lieu. Je dis ça avec émotion, parce qu'il l'a su aussi pour moi. Il a su que s'il ne faisait pas tout le trajet pour venir à ma rencontre, moi, j'étais incapable de faire un mètre dans sa direction. Et c'est pour ça que Jésus, qui a guéri tous les malades, qui a chassé tous les démons de tous les démoniaques de Capharnaüm, il fait le voyage. Avec des risques. Ça ne se fait jamais sans risque. Ça ne se fait jamais sans risque. Et vous constaterez que Jésus qui se prend la tempête, alors c'est surtout les disciples qui se prennent la tempête, mais quand on ira vers les autres, parce que ça va être ça ma conclusion, quand on ira vers les autres, la mer ne sera pas calme non plus. Il y aura aussi de la tempête. Ça ne se fait pas sans risque. Ça ne se fait pas sans risque et ça ne se fait pas sans deux conséquences. On commence par se faire jeter. La première chose que le type dit à Jésus, c'est « Fous-moi la paix ». Enfin, l'expression... c'est une expression hébraïque qui est traduite comme on peut en grec, qui est traduite par « quoi pour toi et pour moi ?» Ça veut dire « qu'est-ce que tu me veux ?» Mais « qu'est-ce que tu me veux ?» au sens hostile, au sens de l'hostilité. « Qu'est-ce que tu viens me chercher, là ?» J'étais tranquille, fous-moi la paix. Ça veut dire ça. Je ne sais pas si vous avez parlé à vos voisins, à vos cousins, à vos beaux-frères, de ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez. Généralement, statistiquement, à 80%, la réponse est « fous-moi la paix avec ça ». Ça ne m'intéresse pas. Bon. OK. Donc, individuellement et collectivement. Collectivement, le bled, enfin tout le village de Gadara, tombe d'accord pour dire à Jésus « fous-nous la paix, barre-toi ». Rentre chez toi. On ne veut plus te voir ici. Parce que résultat des courses, quand même, 2000 cochons qui se sont noyés, nous, on préfère avoir un fou furieux au cimetière, au moins il n'emmerde personne, plutôt que de mettre en péril les ressources alimentaires. Parce que là, pour le coup, comme on n'est plus en Israël, là, on mange du porc. Hein. Si, de toute façon, s'il y a un troupeau de porcs, c'est bien qu'ils en font quelque chose. Ils n'élèvent pas des porcs pour le plaisir. Donc, ils élèvent des porcs pour les bouffer. Et donc, 2000 porcs en moins pour se nourrir, c'est pas rien. Et donc, la paix sociale est de loin préférable au trophée que constitue la délivrance d'un démoniaque qui était dans son cimetière. Et notre planète a dit ça à Jésus aussi. On préfère te renvoyer chez toi, puis avec une brutalité que vous connaissez, on préfère te renvoyer chez toi plutôt que de venir foutre la pagaille parce que tu as déjà foutu la pagaille dans le temple, tu as foutu la pagaille dans la religion, tu as foutu la pagaille dans la paix romaine. Bon, maintenant, ça commence à bien faire. On va se débarrasser de ce type. C'est exactement ce que se sont dit les gens de Gadara. Il faut s'en débarrasser de ce gars. Parce que bon, effectivement, délivrer un démoniaque, c'est bien. Et effectivement, le récit prend la peine de nous dire que le démoniaque en question, bah déjà, il est débarrassé des démons, ce qui est quand même pas rien. Et puis, il est débarrassé de tout ce qui faisait son impureté. Parce que Jésus ne fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire que, plusieurs pourront en témoigner ici, quand il nous délivre de l'impureté, il y a effectivement l'impureté extérieure, mais il y a aussi l'environnement qui change. Notre environnement change. C'est-à-dire que, il était à poil, le texte prend la peine de nous dire qu'il est habillé, on ne nous dit pas où il a trouvé les habits, mais enfin le fait est que quand il le trouve à côté de Jésus, le gars est habillé, il est calme, il a évidemment arrêté de s'automutiler ou de se blesser, enfin, tout est redevenu pur. Quand Jésus purifie, il purifie globalement et totalement. Sauf que ça, pour les habitants de Gadara, ça pèse que dalle, en contrepartie des 2000 cochons qu'on a perdus. Donc, Jésus, rentre chez toi. Et notre monde a dit à Jésus, rentre chez toi. Bien. Reste que ce type que nous étions, que j'étais, lui, du coup, il dit à Jésus, moi, je veux plus te quitter. Je veux partir avec toi dans ton pays. Comme nous, on pourrait être tenté de se dire... Paul a dit ça à un moment. Il a dit, moi, je préférerais aussi. Et je préférerais quitter cette terre pour être avec lui. Et il y a des moments où on peut se dire, moi, je préférerais quitter cette terre pour être avec lui. Et la réponse que fait Jésus à cet homme, c'est, non, tu montes pas dans la barque avec moi. Tu viens pas tout de suite dans mon pays. Tu restes chez les tiens et tu leur racontes ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Voilà la mission de tous ceux que Jésus a délivrés de l'impureté. Tu viens pas avec moi tout de suite. Tu restes et tu racontes. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses. Je veux quand même vous dire, parce que tout ce que j'ai détaillé là, je vous disais, ça leur a parlé. Ça leur a parlé parce qu'ils connaissent la loi, ils savent ce que c'est la pureté, l'impureté. Donc, tous ceux qui ont été les témoins de tout ça, et tous ceux à qui on l'a raconté, ça a fait tilt tout de suite sans qu'on leur fasse un cours de théologie. D'autant plus qu'ils se sont quand même reconnus, je vous parle de gens qui ont appris à lire dans la Bible, hein, donc qui la connaissent par cœur. Entre autres choses, alors s'il y a bien quelque chose... Un auteur qu'on connaît par cœur quand on est israélite, c'est le prophète. Et quand on dit le prophète avec un P majuscule, vous le savez, c'est Ésaïe. Et Ésaïe, il avait dit quoi ? Je vais vous le dire. Il avait dit ceci. Si je le retrouve. Voilà. Il avait dit ceci. Tes villes saintes sont un désert. Jérusalem est un désert, Jérusalem est une désolation. Notre maison sainte et splendide, où nos pères chantaient tes louanges, a été embrasée par le feu. Et tout ce que faisait notre passion est devenu dévastation. Est-ce que devant tout ça, tu pourrais te contenir, Seigneur, et rester inactif ? Et est-ce que tu nous humilieras jusqu'à l'excès ? Et la réponse de Dieu, c'est celle-là. Je me suis laissé chercher par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit me voici à une nation qui n'invoquait pas mon nom. J'ai tendu mes mains, à longueur de journée, vers un peuple rebelle, vers tous ceux qui suivent le chemin qui n'est pas le bon, qui sont à la remorque de leurs propres pensées. C'est un peuple qui me contrarie, en face et sans arrêt. Ils font des sacrifices dans les jardins. Ils font fumer des aromates sur des briques. Ils vivent dans les tombes. Ils passent la nuit dans les grottes. Et ils mangent de la viande de porc. Voilà ce que Dieu avait dit par la bouche d'Ésaïe. Et je termine en disant, alors je ne vais peut-être pas retrouver la... Si. La citation, et j'aurais terminé... En disant que là où ils ont encore compris que, sans encore une fois qu'on ait besoin de leur expliquer, là où ils ont compris ce qui se passait et là où ils ont compris que cette image parce que c'est aussi une allégorie. Ça s'est réellement passé, mais c'est aussi une allégorie pour que tous ceux qui ont entendu ou entendu dire comprennent l'histoire des cochons, vous savez, qui se jettent du haut et qui tombent les uns après les autres, donc 2000. Ça leur a fait penser à un prophète, alors pas pour le coup, pas le prophète, mais un prophète plus petit, Micha, Miché, si vous voulez, qui a dit ceci, et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien, qui a dit ceci, si je le retrouve et si mes lunettes sont toujours à peu près efficaces. C'est où ça? Je vais vous le trouver. Hein. Voilà. À quel Dieu te comparer, toi qui enlèves le péché, toi qui passes sur les révoltes, pour l'amour du reste, ton patrimoine, loin de t'obstiner dans ta colère, lui, il se plaît à faire grâce. De nouveau, il nous manifestera sa miséricorde. Il piétinera nos péchés. Tu jetteras toutes leurs fautes au fond de la mer. L'annonce de l'impureté des hommes disparaissant dans la mer, comme le troupeau de porcs, c'est déjà l'annonce de ce que Jésus fait quand il vient vers nous. Il a quitté son pays, si on peut le dire comme ça, pour faire tout le trajet jusqu'à nous, en sachant que il allait se faire jeter, individuellement et collectivement, on n'allait pas vouloir de lui, mais qu'il allait pouvoir offrir une purification complète à chaque être humain, à charge pour lui, non pas de partir avec lui tout de suite, il ne les a pas emmenés au ciel, il ne nous a pas emmenés au ciel, il ne m'a pas emmené au ciel, mais il me demande de rester un peu pour raconter. Ah, oh. Oui, je... Non, je remets le masque. Oh, pardon.